J'en viens à la dernière partie sur l'islamophobie. On le voit donc, la question qu'on aborde aujourd'hui déborde très largement la seule question de l'islam, de l'islam politique et de sa pénétration dans les consciences de certaines fractions minoritaires de la classe ouvrière, notamment parmi les jeunes. Cette question de la religion, en fait, elle déborde la question de l'islam. Cela dit, on ne le coupera pas, mais c'est quand même l'enjeu du moment, donc allons-y. Alors, quelle devrait être l'attitude des militants et des partis révolutionnaires face au regain relatif, on l'a vu, de religiosité musulmane et face aux projets politiques de diverses tendances parmi les courants islamistes? Notre attitude, est-ce qu'elle doit changer fondamentalement par rapport à la façon dont les militantes et les militants ouvriers du passé ont cherché à combattre les préjugés religieux tout en développant l'influence politique des courants révolutionnaires chez les exploités? Parce que c'est quand même ça, bien les deux genres sur lesquels on va se tenir. Alors, premièrement, quand même rappeler que le racisme anti-musulman, qu'on peut aussi appeler islamophobie, se développe fort quand même ces derniers temps, sous l'impulsion et grâce aux déferlantes politiques et médiatiques qui sont venues initialement de l'extrême droite, qui se diffusent quand même à une vitesse assez stupéfiante dans tout un tas de milieux sociaux et de courants politiques. Deuxièmement, ce racisme anti-musulman, il réactive en fait des préjugés islamophobes ou anti-musulmans très solidement ancrés dans les consciences. En réalité, ancrée dans les consciences d'abord des classes dirigeantes françaises et des classes dirigeantes. Préjugés qui se mêlent de stéréotypes raciaux anti-arabes, stéréotypes raciaux anti-arabes qui ont servi d'outils d'infériorisation, de division des populations colonisées en Afrique du Nord. On peut penser par exemple à la division entre Kabyles et arabes, ou entre berbères et arabes, qui a été un des outils idéologiques utilisés par les colonisateurs en Afrique du Nord. Celles et ceux qui ont déjà vu des documents d'archives, par exemple de l'administration coloniale, ont déjà sans doute vu ça. Le terme de co-religionnaire était très fréquemment utilisé par l'administration française, par les dirigeants de l'État français, jusque au moins dans les années 60 et 70, 1960-1970, pour désigner les travailleurs maghrébins et souvent algériens. On parlait de co-religionnaire pour parler des travailleurs algériens, par exemple, et pour mettre dans le même paquet les Algériens, les Marocains et les Tunisiens, Algériens qui d'ailleurs, selon la terminologie officielle de l'État français jusqu'en 62, étaient rangés dans la catégorie des Français musulmans d'Algérie, donc renvoyés justement à cette identité, assignés à cette identité de musulmans par l'État français. Pointer du doigt la responsabilité de la bourgeoisie et de ses serviteurs d'État est évidemment primordial. Et c'est quand même important de pouvoir le faire. Mais quand je fais ça, c'est pas pour minorer le fait que les préjugés racistes produisent aussi des ravages sur les travailleurs eux-mêmes, bien sûr. Certains défendraient, par contraste, que l'islam, étant la religion pratiquée par les travailleurs immigrés et leurs descendants, serait donc en France, dans les conditions actuelles, la religion des pauvres et des dominés. Cette religion des pauvres et des dominés étant aussi d'ailleurs la religion pratiquée majoritairement dans les pays sous domination impérialiste, et donc elle exprimerait par exemple l'existence d'un bloc anti-impérialiste qui permettrait de critiquer les politiques impérialistes menées par la France notamment. Ceux qui défendent cette idée-là vont parfois jusqu'à dire que du coup la religion musulmane, l'islam, pourrait être un substrat possible d'une conscience anticapitaliste. Donc il y aurait peut-être dans le caractère réactif de l'adhésion à l'islam les germes d'une conscience anticapitaliste. Et ça peut d'ailleurs s'appuyer sur une lecture rapide de la citation de Marx que je donnais tout à l'heure. La détresse religieuse est d'une part l'expression de la détresse réelle et d'autre part la protestation contre cette détresse réelle. Si on lit un peu rapidement cette phrase, effectivement, on pourrait conduire à penser qu'on pourrait tolérer la religion dans sa dimension protestataire. Du coup, on pourrait penser qu'il faudrait du même coup considérer que les croyances et les pratiques religieuses pourraient servir de point d'appui à une conscience anticapitaliste et même révolutionnaire. Et donc, du coup, qu'il ne faudrait pas s'affronter aux préjugés des travailleurs sous l'emprise des idées religieuses, mais plutôt les défendre. Et même peut-être pire encore, qu'il faudrait soutenir ou s'abstenir de critiquer certaines organisations politiques islamistes, sous prétexte qu'elles défendent les musulmans victimes d'islamophobie. Alors tout cela est évidemment très très critiquable. On passera sur l'aspect misérabiliste de cette façon de voir les choses. De la part de militants qui eux-mêmes souvent professent l'athéisme, on peut être quand même assez frappé qu'ils considèrent que l'emprise religieuse serait moins grave quand elle touche les pauvres, les dominés et les exploités. Du coup, l'athéisme serait une sorte de conquête réservée à la guerre déclarée, mais bien que c'est quand même très 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 gênant. On peut en revanche s'arrêter sur l'aspect très opportuniste de cette façon de voir les choses. S'accommoder de la foi en Dieu au nom d'un petit calcul assez mesquin, visant par exemple à trouver un raccourci de façon à s'implanter dans les quartiers populaires, en faisant du deringue à des associations dites communautaires, bon, tout cela est évidemment très opportuniste. Comme si d'ailleurs tous les habitants des quartiers populaires étaient forcément sous influence religieuse, ce qui est une forme d'essentialisation dont on a vu qu'elle reposait tout à l'heure hein, sur aucun fondement sociologique. Une variante de cela, c'est l'attitude des intellectuels radicaux qui ne veulent surtout ni effaroucher ni critiquer les religions parce qu'il faudrait laisser vivre et respecter. Je termine avant de laisser la parole à celle-ci sur une dernière idée. C'est un autre piège qui peut se reformer sur nous, finalement. Une alternative entre soutenir le gouvernement et les républicains bourgeois dans leur lutte apparente contre l'islam politique, d'une part, ou bien dénoncer l'islamophobie d'État au nom de la défense de la liberté de culte et aux côtés de gens dont les projets politiques sont totalement contraires aux nôtres. Cette alternative, elle est mortelle et il faut impérativement qu'on la refuse. Alors oui, il faut lutter et dénoncer sans relâche le racisme anti-musulman sous toutes ses formes, défendre face à l'État le droit privé des musulmans à croire en toute liberté. Oui, il faut absolument dénoncer le double discours permanent et la politique ignoble du gouvernement et de l'ensemble des politiciens contre les étrangers, les immigrés, les musulmans ou non d'ailleurs. Mais non, il n'est ni nécessaire ni souhaitable en tout temps de jouer la surenchère ratée, surtout dans un contexte où les questions religieuses sont politisées à outrance. Et il ne faut surtout jamais renoncer à dénoncer les projets politiques des diverses tendances de l'islam politique, car ce sont les ennemis des travailleurs, ainsi qu'à expliquer pourquoi les idées religieuses sont du voile qui obscurcissent la conscience des travailleurs.